enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 25, verset 15, et on lira jusqu'au verset 32. 5. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Besoin d'être aimé ». Besoin d'être aimé. Genèse chapitre 29, c'est dans le premier livre de l'Ancien Testament, dans les premières pages. Genèse chapitre 29, ai-je dit 25 ? J'étais encore troublé par mes gâteaux à la crème. Genèse, chapitre 29, versets 15 à 35. Merci Louis, je vois que tu suis très bien. Alors, il est dit là, puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire ?» Or, Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bilha, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera ». Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci » et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté 3 fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda et elle cessa d'enfanter. Jusqu'ici. Voyez-vous, je crois, je suis persuadé de cela, c'est que le plus grand besoin de l'être humain sur terre, ce n'est pas une belle voiture, beaucoup d'argent ou une superbe maison. Je souhaite que vous soyez bénis de l'Éternel et que vous possédiez tous ces biens. Mais je crois que l'essentiel de ce que recherche l'être humain de manière très profonde, ce ne sont pas d'abord des biens matériels, mais c'est avant tout la demande d'être aimé. Probablement que plusieurs des jeunes filles qui sont là, ou des personnes qui ne sont plus tout à fait des jeunes filles, mais lorsque vous étiez encore jeune fille, vous rêviez à un prince charmant venant vous chercher sur son cheval blanc. C'est un rêve qu'à un moment ou un autre font à peu près, un rêve que font à peu près toutes les jeunes filles. Moi, je me rappelle quand j'ai rencontré mon épouse, celle qui aujourd'hui est mon épouse, eh bien, au début, la première voiture que j'ai eu l'occasion de m'acheter, c'était une 2 chevaux. Alors, je n'étais pas le prince charmant sur un cheval blanc, mais je la retrouvais avec mes 2 chevaux. Alors, je ne sais pas encore aujourd'hui si elle me considère comme un prince charmant, mais moi, je la considère comme une princesse. N'est-ce pas que c'est beau? Alors, pour l'histoire que nous venons de lire, le personnage de Léa, je ne pense pas que Léa ait été considérée ou se soit elle-même considérée comme une princesse, ni même que Jacob se soit comporté envers elle comme un prince charmant sur son cheval blanc. Et j'aimerais avec vous, eh bien, analyser un petit peu l'histoire de Léa, nous montrant premièrement ses souffrances, ses rejets, et puis dans un deuxième temps, j'aimerais aborder les cris de Léa ou les attentes de Léa. Et enfin, j'aimerais vous dire que Léa a trouvé une solution à ses souffrances, à ses rejets, et elle l'a trouvé dans l'Éternel. Premier point, les souffrances et les rejets de Léa. Lorsque vous lisez ce texte, vous voyez que Léa a été considérée non pas comme une femme, mais comme un objet. Il est dit dans le verset 17 du texte que nous avons lu, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et de figure. Lorsque vous regardez la version originale de les yeux délicats, vous voyez que cela dénote, eh bien, un problème au niveau des yeux de Léa. Probablement elle louchait ou elle avait un regard qui était difficile. Cela montrait qu'il y avait une tare physiquement chez Léa. Et Léa n'était à cause de cela, ou en tout cas en partie à cause de cela, eh bien pas regardée par Jacob. Mais Rachel, qui elle était belle de taille, belle de figure, était considérée par Jacob. Et souvent nous pouvons ressentir dans notre vie des rejets qui sont la conséquence de ce que nous sommes physiquement. Physiquement, la société nous donne, eh bien, place la barre très haut en ce qui concerne la perfection physique. Et quand on ne ressemble pas, quand on n'est pas joli comme Angela Jolie, ou comme Tom Cruise pour les hommes qui sont là, eh bien, on pense en se regardant dans le miroir que finalement il y aurait bien des choses à changer. Alors, on fait toutes sortes de régimes. En mangeant, alors je ne vais pas m'étendre, j'en avais déjà parlé, mais en mangeant des légumes sans sel, sans sauce, des desserts sans crème, bien fades. Et puis la crème qui manque dans les desserts, eh bien on se la badigeonne sur le ventre. Des crèmes amincissantes, disent-ils. Et puis on fait tout un tas de régimes, les uns après les autres, jouant au yo-yo. Certaines sœurs qui ont dû en essayer quelques-uns. Il y a vraiment ce rejet qui correspond aux personnes qui ne sont pas conformes aux critères que la société nous donne de la beauté. Mais pour chacun, la beauté est différente. Chacun a un autre critère de la beauté, heureusement. Et puis, Léa a également été ignorée par Jacob. Imaginez Léa se réveillant le matin, et découvert par Jacob comme n'étant pas celle avec qui Jacob aurait dû être. Je ne sais pas, mais Jacob aurait pu au moins lui dire quelque chose. Il n'a rien dit. Il est allé voir son beau-père Laban et a commencé à le critiquer parce qu'il ne lui avait pas donné celle qu'il avait promis. Le trompeur trompé, Jacob. Jacob veut dire usurpateur. Autrement dit, ce que Jacob avait semé, il était en train de le récolter. Mais souvent, quand on lit cette histoire, on se dit tous, le pauvre Jacob. Oh, le pauvre, il a été trompé. Mais est-ce qu'on peut un instant tourner nos yeux vers Léa? Léa était-elle fautive du fait que Jacob ait été un usurpateur? Je ne crois pas. Pourtant, Léa subissait dans le rejet, eh bien, les conséquences des désobéissances à Jacob. Et je me suis souvent posé la question en disant, Seigneur, mais il me semble que bien souvent, la malédiction non seulement retombe sur la génération qui désobéit, mais retombe également sur les enfants et les enfants des enfants de cette génération-là. non pas forcément à cause de leurs actes à eux, mais à cause des actes de leur père ou de leur arrière-grand-père. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Et lorsque, eh bien, des enfants grandissent dans le rejet, souvent bien qu'ils veuillent reproduire le contraire dans la propre famille qu'eux-mêmes fondent plus tard, eh bien, ils n'arrivent pas à reproduire le contraire. Mais eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas été aimés, parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils étaient en droit d'attendre, à leur tour ne sont pas capables d'aimer les leurs. Et c'est comme une malédiction qui est là de génération en génération et de génération en génération. Et puis Léa était utilisée par son père comme un objet de transaction. Lisez ce qu'il est marqué dans le verset 26 à 28, il est dit « Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci. Pauvre Léa, achève. Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Voyez-vous, je pense que dans ce texte, Léa a été une réelle monnaie d'échange. Elle n'a pas été considérée comme une personne, mais son père l'a échangée tout simplement contre 7 nouvelles années de travail. Et aujourd'hui, eh bien, certaines personnes dans notre société, dans nos familles, voire certains de nos enfants peuvent être considérés comme une monnaie d'échange. J'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes, des familles qui avaient des enfants parce qu'elles touchaient en contrepartie la sécurité sociale, les allocations familiales, et que cela leur permet de bien vivre grâce à cela. J'ai vu certains parents être très fiers de leurs enfants au travers des études que faisaient leurs enfants. Mais finalement, ils poussaient leurs enfants à faire de hautes études, non pas d'abord pour l'enfant, mais parce que finalement, ça valorise les parents. Lorsqu'un enfant est médecin, mon fils est médecin. Alors, je n'ai rien contre les médecins et je bénis Dieu pour tous les médecins et pour tous ceux et celles à qui Dieu a donné de l'intelligence pour faire de grandes études. Mais combien d'enfants ont été poussés à faire de grandes études, non pas pour l'enfant, mais pour valoriser les parents. C'est comme s'il était une monnaie d'échange. Et puis il y a certains pays dans lesquels l'enfant est réellement une monnaie d'échange. Je regardais l'autre jour une émission parlant d'enfants qui, dès l'âge de 4 ans, 5 ans, n'allaient pas à l'école parce que les parents les envoyaient travailler. J'ai lu dernièrement un livre qui s'intitule « Morte parmi les vivantes ». Ce n'était pas un livre, entre guillemets, chrétien, mais il parlait d'une femme afghane et de la manière dont elle était traitée. Et il était dit dans ce texte ou dans ce livre que cette femme avait été violée alors qu'elle n'était qu'une enfant, 12 ans. Et à cause de cela, lorsque une telle femme subit de telles choses, elle est considérée comme maudite et rejetée par sa famille, comme si c'était de sa faute. Et sa mère l'a mis à dormir auprès des bêtes. Et plus tard, elle a été vendue pour être donnée, monnayée à des hommes. Et cette femme, tranquillement, parce qu'elle n'a pas reçu l'amour qu'elle était en droit d'attendre, eh bien, est devenue comme une femme objet qui a été utilisée, échangée et monnayée. Ce sont des choses qui arrivent. Vous savez, dans le temps, lorsque l'on voulait un objet, on ne donnait pas de l'argent, mais on l'échangeait contre un autre objet. C'est ce qu'on appelait le troc. Alors, on échangeait un poireau contre un kilo de carottes. Ou alors 10 brebis contre 3 vaches. Dans certains pays, ils échangent même les femmes contre des chameaux. J'ai entendu dire, hein. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on troquait Léa, que son père était en train de la troquer et qu'elle n'était que l'objet d'un échange entre le père et Jacob. Et à côté de Rachel, eh bien, il y avait cette femme souffrante, Léa, qui souffrait d'une fête de ne pas être aimée telle qu'elle était. Lorsque vous êtes au Sénégal, vous voyez se promener des petits-enfants avec des boîtes de conserve en ferraille accrochées autour du cou. Et ces enfants, on les appelle les talibés. C'est des enfants qui sont vendus à des marabouts par leurs parents pour toucher un peu d'argent. Et puis ces mêmes enfants sont utilisés par les marabouts pour faire la manche dans les rues et ils ont intérêt à apporter quelque chose aux marabouts le soir. Sans quoi, gare à eux, des enfants que l'on monnaie, que l'on échange, que l'on utilise. J'aimerais passer au second point. Voyez-vous, je pense que ce qui est évident, c'est lorsque l'on ne reçoit pas l'amour qu'on est en droit d'attendre, eh bien, l'on recherche cet amour. Chercher l'amour duquel nous devons être aimés est un besoin. Et lorsque le besoin de cet amour, on ne le reçoit pas dans un endroit, alors on le cherche ailleurs, mais on le cherche. Et Léa, elle, eh bien, a cherché auprès de Jacob l'amour qu'elle n'avait jusqu'à aujourd'hui pas reçu. Et elle a poussé des cris. Voyez-vous, quand quelqu'un manque d'amour, il crie, il pousse des cris. Et ces cris se manifestent de plusieurs manières. Chez certains, c'est des cris qui se manifestent au travers d'une certaine violence. Une violence, pour certains, verbale, mais pour d'autres, une violence au travers des gestes. Et je crois que nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, eh bien, nous devons avoir la capacité de regarder, non pas au cri pour juger la personne qui crie, mais la capacité de regarder ce qui se cache comme souffrance derrière ces cris. Les cris peuvent s'exprimer de différentes manières, oui, par toutes sortes de violences. Alors que l'on disait à certains, tu n'es bon à rien, tu ne feras jamais rien. Des attitudes qui se manifestent également au travers de certaines maladies. Je lisais les écrits d'un médecin très dernièrement qui disait que certains cancers étaient développés à cause de chocs émotionnels. Et les cancers ne démarraient pas tous forcément uniquement dans le domaine physique, mais d'abord au niveau du choc émotionnel et se traduisaient par un cancer. Vous savez, il y en a certains, lorsqu'ils poussent des cris, ils explosent extérieurement, mais d'autres implosent, ils explosent intérieurement. Et ça donne certaines maladies, comme des cancers, comme la boulimie, comme pour certains l'anorexie. Mais pouvons-nous voir, au travers de ces cris, la souffrance de personnes qui tout simplement demandent à être aimées? Certains de ces cris peuvent également se manifester au travers de mensonges. Voyez-vous, lorsque l'on n'est pas aimé tel que l'on est, ce qu'on est en droit d'attendre, eh bien, on ment et on s'invente d'autres identités. Pour être aimé, on fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Ceci afin d'être aimé, non pas sur la base de ce que l'on est réellement, mais sur la base de ce que l'on fait croire que l'on est. Regardez Léa. Léa, pendant 7 ans, elle regardait Jacob. Mais Jacob ne faisait que regarder Rachel. Et puis le soir s'est présenté où Laban s'est dit, bien d'abord je vais donner Léa à Jacob. C'était l'occasion pour elle. C'était l'occasion pour elle de passer une nuit avec celui que peut-être, avec, vers lequel peut-être elle attendait de l'amour, de qui elle attendait de l'amour. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a menti. Elle s'est fait passer pour Rachel, une autre identité. Quelqu'un d'autre, mais quelle ne fut pas sa désillusion lorsqu'elle s'est réveillée le matin, de voir que, parce qu'elle a menti, et que son mensonge en tout cas, ne pouvait pas produire de l'amour chez Jacob. Certains mentent, certains s'inventent une identité qui n'est pas la leur, simplement pour recevoir l'amour qu'ils n'ont pas reçu ailleurs. Et c'est souvent pour cela que certains jeunes commencent à fumer, voire à se droguer, voire à faire toutes sortes de choses. Je n'excuse pas le péché ce matin. J'essaie juste de saisir et de comprendre pourquoi certains tombent dans certains péchés. Et certains tombent dans ces péchés-là simplement pour être admis dans un groupe, dans un clan, et être, entre guillemets, aimé par les autres. Quel mensonge que de s'inventer une identité qui est l'identité d'un autre. Et à cause de cela, d'essayer de gagner l'amour d'un autre. Alors j'aimerais, moi, encore ce matin, voir quels ont été les 3 cris de Léa. Léa a poussé 3 cris pour essayer de gagner l'attention de Jacob. Et ces trois cris se sont manifestés dans les trois premiers enfants qu'elle a eus. Ces enfants ont été comme des cris en direction de Jacob, lui demandant « Mais est-ce que tu veux me voir, me regarder et m'aimer ?» Le premier cri a été Ruben, son premier fils. Ruben veut dire « Regarde-moi ». L'amour du peuple de Dieu doit se manifester dans sa capacité à regarder les autres comme ils sont, derrière leurs cris et derrière leurs souffrances. Et au travers de Ruben, eh bien, Léa a crié à Jacob et lui a dit « Mais aime-moi, j'ai besoin que tu me regardes, j'ai besoin que tu sois attentive à mon égard ». Probablement que Jacob rentrait à la maison, travaillant à présent pour essayer d'obtenir Rachel. Et à aucun moment il ne voyait quand Léa avait mis une nouvelle robe ou fait peut-être un bon petit plat pour essayer d'attirer son attention. J'imagine que, eh bien, pendant des années, jamais elle n'a eu l'attention d'un mari qui ne fût-ce qu'une fois la regarder pour lui dire « je t'aime ». Jamais. Bien qu'elle ait essayé de le faire au travers de Ruben, lui disant « mais, ok, je suis pas aussi belle que ma sœur, mais j'ai besoin que tu me regardes ». Combien d'enfants n'ont jamais été regardés et souffrent à cause de cela ? Combien de maris ne sont plus regardés par leurs épouses ou d'épouses regardées par leurs maris et souffrent à cause de cela ? Ça fait combien de temps que votre époux, chères épouses, ne vous a plus dit que vous avez une belle robe et que vous êtes merveilleusement bien habillée ? La question, je me la pose à moi-même aussi, hein, et j'interdis ma femme de répondre. Léa avait besoin d'être regardée. Et nous avons toutes et tous besoin à la fois d'être regardés, considérés pour ce que l'on est, mais nous avons également toutes et tous besoin d'avoir ce regard qui est le regard d'amour de Jésus au travers de nos vies. Et que lorsque quelqu'un rentre de différent dans l'église, eh bien que nous ayons ce regard qui n'est pas un regard qui juge, mais qui est un regard de compassion et de miséricorde. Et puis le deuxième cri de Léa, c'est Siméon qui veut dire entendre. Entendre. Là aussi, je dirais que, eh bien, nous, peuple de Dieu, nous avons la responsabilité d'entendre les souffrances de ceux qui viennent dans l'église, mais également leur permettre d'entendre combien, malgré leurs cris et leurs souffrances, nous les aimons comme ils sont. C'est notre responsabilité. Et nous l'avons devant le Seigneur. Et Léa voulait dire à Jacob, bien, entends-moi, entends ce que j'ai à te dire. Lorsque je préparais ce message, la pensée m'est venue des ados et des pré-ados. Et vous savez, souvent on parle de crise d'adolescence ou de préadolescence. Alors, j'ai un ado à la maison. Et je comprends ce qu'est la crise de préadolescence ou d'adolescence. Je comprends que ce n'est pas facile. Mais puis-je me permettre de vous dire quelque chose ? Peut-être que la crise de votre adolescent ou préadolescent serait passée avec beaucoup de douceur si vous saviez l'écouter et entendre ce qu'il a à vous dire au travers de la crise qu'il passe. Des fois, on dit, ben, finalement, c'est la crise d'adolescence. Ça passera. Puis 2 ans, 3 ans, ça passera. Puis il y en a, ils font des crises d'adolescence à 30 ans, 40 ans. Hein. Peut-être simplement parce qu'ils n'ont pas été écoutés. Mais si vous preniez du temps avec votre adolescent, de vous asseoir à table et de discuter avec lui pour savoir pourquoi il réagit comme cela, quelles sont les raisons pour lesquelles il réagit comme ça, si vous preniez le temps de l'écouter et de l'entendre, peut-être vous dirait-il des choses qu'il a besoin de vous dire. Et peut-être que vous, alors, vous seriez capable de lui dire mais je te comprends et je t'aime comme tu es. Et c'est peut-être tout simplement ce qu'il a besoin d'entendre. Que vous l'aimiez, c'est difficile à dire à un adolescent. Hein. Je t'aime, c'est difficile. Hein. Souvent, j'ai l'impression qu'on se cache derrière la crise d'adolescence. On a l'impression que certains même disent, c'est un esprit de crise d'adolescence. On va le chasser, il va être libre. Moi, j'ai presque envie de dire que des fois, c'est un esprit d'incapacité d'écouter l'adolescent. Je suis certain que certaines crises d'adolescence seraient différentes si on avait la capacité de s'asseoir avec eux et d'écouter ce qu'ils ont à nous dire. Moi, j'ai jamais plus réalisé que depuis que mon fils est adolescent, combien le désir de son cœur était d'être avec son papa. Et je crois que souvent, c'est ce qu'il cherche. Il cherche à être écouté et entendu. Nous avons un cas particulièrement, parmi tant d'autres, difficile dans le quartier. C'est un jeune garçon, il s'appelle Zinedine. Et puis un jour, avant de partir dans le quartier, nous avons dit, écoutez, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va pas prêter attention au grand nombre d'enfants qui viennent, mais on va regarder chacun, un enfant en particulier, à qui l'on apportera un geste d'affection, une attention particulière. Et puis au moment où je dis ça, le nom de Zinedine me vient. En arrivant dans le quartier, évidemment, qui n'a pas essayé de défoncer la camionnette à coup de pied, c'était mon Zinedine. Ça commençait mal. Mais je dis, Seigneur, je me tiens à ce que j'ai dit, je veux lui porter de l'attention. Je sors de la camionnette, nous faisons quelques jeux, et puis je vais le voir, et je le regarde dans les yeux, je dis, Zinedine, si tu savais comme je suis content de te voir. Et j'ai juste mis le bras sur l'épaule. J'ai l'impression que ce gamin a fait un demi-tour. Depuis, il n'est plus le même. Non seulement quand j'arrive, il ne touche plus à ma camionnette, mais il défend les autres de toucher à ma camionnette. Mais lorsque vous portez de l'attention à quelqu'un qui en a besoin, automatiquement va se produire quelque chose en lui. Ça ne peut pas être possible autrement, parce que ce qu'il fait, c'est un cri qui simplement veut dire « Écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire ». Voyez-vous, souvent on est là et plutôt que d'écouter l'autre, on est prêt à dénoncer le péché. Mais si l'on dénonce le péché, parce qu'il faut dénoncer le péché, mais avec douceur, capable de parler, d'écouter, assaisonné de la grâce que le Seigneur nous a fait pour nous-mêmes, et que de cette manière on écoute l'autre, alors, ok, il réalisera son péché, mais vous lui donnerez envie de se relever. Vous savez, certains, de la manière dont ils parlent, tuent le péché. Le péché n'existe plus. Le problème, c'est qu'ils tuent le pécheur avec. Alors évidemment, lorsque le pécheur est mort, lorsqu'il est couché par terre, le péché est mort avec. Un mort ne peut plus pécher. Mais notre rôle, ce n'est pas de tuer le péché avec le pécheur. C'est de permettre que le pécheur réalise son péché, mais qu'il ait le désir, dans ce que nous lui disons, de se relever pour ne plus pécher. Amen. Soyons capables à la fois d'écouter, mais également de parler. Et enfin, le troisième cri de Léa, Lévi. Lévi veut dire être joint, être uni ou être connecté à. Et dans ce point, j'aimerais aborder le fait que l'Église doit être connectée avec les gens de l'extérieur qui sont mal aimés. Il nous faut absolument nous connecter et non pas nous déconnecter. Nous devons amener dans ce lieu des gens qui crient, qui souffrent leur douleur. Quand même, ils sont différents. Peut-être qu'on aurait du mal à emmener des jeunes avec des boucles d'oreilles ou des cheveux gominés ou des vestes en cuir ou je ne sais quoi, parce qu'ils sont différents. Ils sont différents de ce qu'est le peuple de Dieu. Mais simplement, ils expriment un cri qui demande à être entendu et qui, si vous l'entendez, eh bien, commence à opérer une guérison qui produira un changement. Et je crois de tout mon cœur que nous ne devons pas être déconnectés des gens mal aimés, mais nous devons nous connecter à eux. Et peut-être que vous-même, vous avez été déconnecté de différentes manières par rapport à des gens de qui vous étiez en droit d'attendre d'être aimé par eux. Mais recevez de la part de Dieu ce matin. Voyez-vous, je crois que Jésus a aimé particulièrement les mal aimés. La prostituée était une mal-aimée, Jésus l'a aimée. Zachée était un mal-aimé, certainement à cause de son péché. Oui, on aurait pu donner toutes les excuses pour dire, bien c'est tant pis pour lui, il a péché, il mérite ce qu'il reçoit. Jésus s'est arrêté, il l'a aimé. Il a aimé la femme adultère que l'on voulait lapider, il s'est mis entre les cailloux, il l'a aimé. Jésus a aimé la femme à la perte de sang qui était rejetée par tout le monde à cause de sa maladie. Il a aimé la mal-aimée. Et il a reçu cette capacité de l'écouter, de la comprendre, mais de se connecter à elle. Et dans quelques jours, nous allons fêter la Pâque. La Pâque, c'est simplement l'œuvre de connexion que Dieu a accomplie au travers de la croix et de son Fils Jésus. Il s'est connecté avec nous au travers du sacrifice de son Fils. Et s'il s'est connecté avec nous, c'est que nous, afin que nous, il l'a fait, afin que nous soyons connectés avec les gens qui souffrent. Amen. Nous devons, eh bien, aimer de tout notre cœur ceux qui sont mal aimés. Alors, quelle est la solution? Elle se trouve, la solution, dans le troisième cri que lance Léa. Et lorsque vous regardez le texte, vous voyez que son quatrième enfant est appelé du nom de Judas. Et il est dit dans ce texte, au dernier verset, verset 35, il est dit « Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. » Et elle dit « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'il est dit dans ce passage qu'elle cessa d'enfanter. Parce que lorsque vous lisez la suite de l'histoire, vous voyez qu'elle a encore eu deux enfants. Pourtant, la Bible ne ment pas. Il est dit là, elle cessa d'enfanter. Pourtant, plus tard, elle a encore reçu Zabulon et Issachar. Mais il est dit, elle cessa d'enfanter avec Judas. Oui, elle cessa d'enfanter en utilisant ses enfants pour chercher le regard de Jacob. Mais elle a cette fois-ci enfanté, non pas pour chercher l'attention de Jacob, mais pour regarder à l'Éternel. Et dans ce sens-là, oui, elle cessa d'enfanter. Oui, elle ne fit plus de ses enfants des objets qui étaient uniquement là pour attirer le regard de Jacob. Quand elle a vu qu'elle n'attirait de toute façon pas le regard de Jacob, elle a eu Judas. Mais Judas a été un tournant pour sa vie. Parce que Judas a été celui au travers duquel elle a dit « Maintenant je regarde à l'Éternel. Maintenant je ne regarde plus à ce que Jacob peut m'apporter ou ne pas m'apporter. » Mon but, c'est de commencer à louer l'Éternel. Et Judas veut dire louange à l'Éternel. Et j'aimerais vous dire que la solution, elle se trouve là. Quand vous ne cherchez pas la solution auprès des hommes, mais que ayant été rejeté, ayant besoin d'amour, vous cherchez auprès de l'Éternel dans la louange, alors il est certain que l'amour vous sera parfaitement distribué. C'est certain. D'ailleurs, Issachar, Zabulon, veut dire récompense et habitation. Autrement dit, elle avait compris, Léa, que lorsqu'elle commencerait à louer l'Éternel, elle trouvait une récompense dans le fait que c'est l'Éternel lui-même qui viendrait habiter dans sa louange. Et quand l'Éternel est venu habiter dans sa louange, alors elle a été récompensée. Sa récompense, elle ne l'a plus cherchée auprès de Jacob. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas la chercher auprès de Jacob. Mais elle a enfin, au travers de ce quatrième enfant et de cet ultime cri qui s'est élevé vers l'Éternel, compris que c'est vers lui qu'elle devait chercher cet amour qu'elle avait besoin de recevoir. Qui que tu sois ce matin, peut-être tu as été mal aimé, maltraité, rejeté ou jeté. Qui que tu sois ce matin, peut-être tu fais partie de ces générations antérieures qui n'ont pas été capables de t'aimer et de produire en toi de l'amour qui aujourd'hui te rend capable d'en donner. J'aimerais te dire, arrête de te plaindre, mais reçois l'esprit de Judas. Reçois cet esprit de louange qui te permet de louer l'Éternel et de chercher cette récompense qui n'est pas d'abord une belle voiture, d'abord une belle maison, d'abord un compte en banque bien fourni, mais cette récompense, qui est lorsque tu le loueras, sa présence dans ta vie. Et il te comblera de cet amour dont tu as besoin. Et j'aimerais te rassurer en te disant que tu n'as pas besoin de mentir et d'essayer de revêtir l'identité d'un autre parce que Dieu t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Que tu aies la beauté de Rachel ou les yeux délicats de Léa, Dieu t'aime tel que tu es. Son amour n'est pas le résultat de ta capacité intellectuelle, de ton physique ou de la grosseur de ton compte en banque. L'amour de Dieu est pour toi, personnellement. Et si, dans la louange, avec l'esprit de Judas, tu loues l'Éternel de tout ton cœur, alors tu verras combien, dans la louange, ta récompense sera que Dieu viendra te visiter, te toucher et remplir ton cœur. Loue-le quand tu vas au travail le matin. Loue-le quand peut-être il t'arrive d'avoir une mini-dispute avec ton épouse ou ton époux. Loue-le lorsque le patron t'annonce qu'il n'augmente pas ton salaire. Loue-le lorsque tu tombes en panne avec ta voiture. Loue-le en toutes circonstances. Et c'est ainsi que tu auras la paix dans ton cœur. J'aime cette histoire, l'histoire de cette femme. J'avais eu l'occasion de vous la raconter déjà. Qui un jour a eu un accident de voiture avec la belle voiture que son mari venait d'acheter. Oh, catastrophe! Et puis, lorsqu'elle se précipite vers la boîte à gants où se trouvait le constat, pour remplir le constat, d'une main tremblante, parce que bien sûr elle avait peur de la réaction de son mari, voilà qu'elle voit sur le constat un joli mot écrit de la main de son mari qui disait « Chérie, s'il t'arrive d'avoir un accident avec ma voiture, ne crains pas parce qu'il faut que tu saches que je t'aime plus que la voiture. » C'est pas joli ça? Alors, je sais pas si dans les faits c'est une réalité. Cher mari, lorsque vous achetez une belle voiture, risquez-vous à mettre un petit mot. Mais le mot doit être accompagné au retour de votre épouse par des actions concrètes, hein, par des paroles concrètes, hein. Léa a enfanté Judas, elle s'est exclamée, maintenant, je louerai l'Éternel. Elle a arrêté de se battre pour être considérée par Jacob. Elle a arrêté de vouloir à tout prix attirer son attention. Elle a arrêté de se battre pour que quelque chose se passe dans son couple. Mais elle a commencé à chercher l'Éternel de tout son cœur. J'aimerais vous raconter une dernière histoire. C'est un petit clin d'œil que je trouve très joli, que Dieu m'a fait il y a 15 jours de cela. J'étais dans une famille, je ne vous raconterai pas les détails de cette famille, mais plus misérable que misérable. Et puis, je connais cette famille depuis des années. Vous savez, quand vous suivez des familles misérables depuis des années, vous perdez courage. Et vous dites, Seigneur, mais cette famille est comme une terre désertique dans laquelle, finalement, il n'y a plus rien à faire. Nous t'avons nous-mêmes prié, cherché, mais rien ne s'est fait dans cette famille. Et puis, lorsque j'y étais, en particulier pour visiter les 4 enfants de bas âge, cette femme me disait, écoute, j'ai pas d'électricité, il y a plusieurs endroits où il n'y a plus de courant dans mon appartement. Et quel appartement? Alors, j'ai regardé la boîte à fusibles, moi, le grand technicien devant l'Éternel. Et puis, j'ai dit, écoute, tout ce que je peux faire, c'est aller t'acheter quelques fusibles. Je connaissais une sœur qui avait un magasin au centre-ville, et puis je vais te les acheter, et puis essayer de te les mettre, hein. Et puis, quand j'étais dans le magasin, avec cette sœur, à la fin, alors que j'avais acheté les fusibles, me dit, écoute, tiens, je t'offre quelque chose. C'était un petit pot de fleurs avec de la terre et une jolie fleur qui poussait de ce pot de fleurs. Et en même temps qu'elle me le donnait, dans mon cœur, cette pensée, tu disais que la famille dans laquelle tu vas, tu ne pouvais plus rien faire. Et moi, je te montre au travers de ce pot de fleurs et de cette fleur que moi, là où humainement il n'y a plus rien à faire, là où humainement, eh bien, partout avait été cherché ce besoin d'être aimé et n'avait pas été reçu, moi je peux permettre que cette terre desséchée, de cette terre desséchée, pousse une belle fleur. Et lorsque j'ai offert la fleur à la plus grande des filles qui avait 8 ans, elle a fait un grand sourire. Et la maman de me dire, mais tu peux pas savoir comme elle aime planter et cultiver des fleurs. Et j'ai dit, Seigneur, merci pour ce clin d'œil, parce que tu me montres que là où les gens souffrent et pensent humainement ne plus pouvoir recevoir l'amour dont ils avaient besoin, eh bien, lorsqu'ils te cherchent, toi, dans la louange, tu as la capacité de venir à leur secours et de permettre que sorte d'un cœur desséché, d'une situation aride et difficile, insurmontable, tu as la capacité de faire sortir de cela une fleur, et même un champ de fleurs. Et je me réjouis pour cela. Amen. Alors faisons partie de la tribu de Judas. Vous savez, David faisait partie de la tribu de Judas. Et là, lorsque David accompagnait l'arche de l'Alliance en direction de Jérusalem, il est dit que David poussait des cris de joie. Il chantait, il dansait. Est-ce à dire que David n'avait pas de problème? Certainement pas. En tant que roi, il avait des problèmes. Mais David avait cette capacité de chercher la présence de Dieu, de se réjouir dans sa présence et recevait alors de la part de Dieu cet amour qu'il avait la capacité de communiquer. Amen. Que notre cri ce matin ne soit autre que « Seigneur, je veux tourner mes regards vers toi. » Pas vers les hommes, pas vers ceux qui m'entourent, auprès desquels j'ai tant et tant cherché et j'ai été tellement déçu. Mais le chercher auprès de toi, dans ta présence, dans la louange dans laquelle tu habites. Amen.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.